Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahmane Dia en direct de Washington pour cette édition de 19h30 temps universel. On est jeudi 12 avril 2018. Au sommaire, en Sierra Leone, Samora Camara, qui a perdu le second tour de la présidentielle, va finalement saisir la Cour suprême. Nouveau rendez-vous manqué pour l'opposition togolaise qui n'a pas pu manifester aujourd'hui encore. L'Algérie, toujours en deuil au lendemain du crash d'avion qui a fait 257 morts hier. Et puis le président français Emmanuel Macron affirme avoir les preuves que le régime syrien est à l'origine de l'attaque chimique à Douma. En partie magazine, Amnesty International se félicite du recul de la peine de mort en Afrique.
De manière générale, il y a une baisse au niveau du nombre de pays qui exécutent des personnes condamnées à mort.
Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. En Sierra Leone, après avoir félicité son adversaire Samora Camara, candidat malheureux à l'élection présidentielle, a saisi la Cour suprême pour contester la victoire de Julius Maada Bio. Le point avec Morgane Guériec.
Dans son recours consulté par l'AFP, M. Camara reproche à la commission électorale d'avoir proclamé le 4 avril la victoire de M. Bio sans tenir compte d'irrégularités observées, selon eux, lors du second tour, le 31 mars. Il demande donc à la Cour suprême d'ordonner l'exclusion du décompte des bureaux de vote où s'est produit un bourrage d'urnes et d'invalider l'annonce de la victoire de Julius Maada Bio, qui a prêté serment 2 heures plus tard. La date de la décision de la Cour suprême n'était pas connue dans l'immédiat. Le soir de la proclamation des résultats, M. Camara avait exprimé l'intention de les contester en justice. Mais il avait ensuite félicité M. Bio le 7 avril lors d'une visite à son domicile avec une délégation de son parti. Les observateurs présents lors des élections ont généralement salué le bon déroulement du scrutin. La date de la décision de la Cour suprême n'était pas connue dans l'immédiat.
Par ailleurs, le nouveau chef de l'État Sierra Leone, Julius Maada Bio, a désigné un gouvernement de 14 ministres, 12 hommes et 2 femmes. D'autres nominations restent encore à venir selon un communiqué de la présidence ce jeudi. Au Togo, pour la 2e journée consécutive, l'opposition n'a pas pu manifester à Lomé comme elle le souhaitait. Le gouvernement a interdit les manifestations. L'opposition exige toujours le retour à la constitution de 1992. Le point à Lomé avec notre correspondante Kay Lawson.
La répression d'hier a eu raison de la détermination des manifestants qui ne se sont pas présentés ce jeudi matin aux différents points de départ de la marche. Le gouvernement a dit maintenir l'interdiction des manifestations. Le ministre de l'administration territoriale, Payadoua Boupessi, explique que cette interdiction est motivée par la volonté de Lomé de ne pas violer les engagements pris par les parties prenantes au dialogue. Comme bilan de la journée d'hier, la coalition des 14 partis de l'opposition déplore 25 manifestants blessés et une tentative d'assassinat sur la personne de Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition. Le samedi prochain, 3 entités projettent manifester. Il s'agit de la centrale syndicale Synergie des travailleurs togolais, du mouvement de la société civile Front Citoyen Togo Debout et de la coalition des 14 partis de l'opposition. Kay Lawson, Lomé pour VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le Sénat fait sa rentrée ce jeudi à Yamoussoukro. C'était en présence du président Alassane Ouattara et des présidents des différentes institutions, composées de 99 membres, dont 66 élus au suffrage indirect et les 33 autres nommés par le président de la République. Le Sénat est chargé d'assurer la représentativité des collectivités territoriales et des Ivoiriens de la diaspora. Nous y reviendrons dans la partie magazine. En République démocratique du Congo, 4 partisans de l'opposant Moïse Katumbi ont été placés en détention pour injure au chef de l'État, Joseph Kabila. Ces 4 personnes avaient été arrêtées samedi à Lubumbashi après un rassemblement de la plateforme électorale Ensemble, lancé début mars en Afrique du Sud par Moïse Katumbi. Au Cameroun, un ancien magistrat enlevé dimanche dans une des 2 régions anglophones du pays a été libéré. L'ex-président de la Cour d'appel du Sud-Ouest, Martin Beng, a effectivement été libéré, a affirmé un responsable régional de l'armée, confirmant une information obtenue auprès d'une ONG. pression sur le gouvernement soudanais pour qu'il retire ses troupes du Yémen où elles interviennent dans le cadre de la coalition sous commandement saoudien. Les appels au retrait des troupes soudanaises se multiplient à Khartoum depuis une embuscade meurtrière la semaine dernière dans le nord de ce pays en guerre. Des dizaines de soldats soudanais ont été tués dans la province de Hajj lors d'une embuscade tendue par les rebelles houthis. L'Algérie observe un deuil national de 3 jours après le crash d'un avion militaire qui a fait 257 morts. L'appareil s'est écrasé hier, quelques minutes après son décollage de l'aéroport militaire de Boufarik. Les causes restent pour l'instant inconnues. Reissa Girondin.
Un deuil national de 3 jours a été décrété dès mercredi en mémoire des victimes qui sont majoritairement des soldats et des membres de leur famille. Le drapeau national est en berne sur les bâtiments ou places publiques de la capitale algérienne. De nombreux événements culturels ou festifs prévus ces 3 prochains jours ont été supprimés. Les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête pour connaître les causes de la pire catastrophe aérienne de l'histoire du pays. Plusieurs journaux algériens rappellent que le pays est frappé par une série de crashs aériens, soulignant que l'âge des appareils de l'armée et leur entretien ont déjà été mis en avant. Le dernier accident remonte à juin dernier et avait fait 1 mort et plusieurs blessés. Vendredi, la prière de l'absent sera récitée à la mémoire des victimes dans toutes les mosquées d'Algérie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Selon la Maison-Blanche, les États-Unis et leurs alliés sont toujours en train d'examiner comment répondre aux atrocités en Syrie, de nombreuses options étant encore en considération. Hier, le président américain Donald Trump a tweeté que les missiles allaient arriver en réponse à la menace de la Russie d'abattre tous les missiles américains en Syrie. Les précisions de Arzuma Compaoré.
Le président Trump a réagi avec colère aux images d'enfants mourants après une attaque présumée dans une banlieue de Damas. Il a appelé le président syrien Bachar al-Assad un animal qui tue au gaz et s'est engagé dans une guerre de mots avec la Russie, allié du président syrien. Trump est resté cependant évasif jeudi sur le moment où les États-Unis pourraient lancer des frappes contre la Syrie en représailles de cette attaque chimique présumée, affirmant qu'elle pourrait intervenir très tôt ou pas si tôt que cela. Donald Trump semble donc retropédalé par rapport à sa série de tweets de la veille. Les législateurs russes ont averti les États-Unis que Moscou considérerait une frappe aérienne sur la Syrie comme un crime de guerre et qu'elle pourrait déclencher un conflit militaire direct entre les États-Unis et la Russie. En Grande-Bretagne, une réunion du cabinet d'urgence était prévue jeudi par la première ministre britannique Theresa May pour discuter du rôle à jouer dans toute réponse à la situation en Syrie. Jeudi, le président français Emmanuel Macron a déclaré que la France s'efforcerait de préserver la stabilité dans la région, mais ne tolérerait pas les régimes qui pensent que tout est permis.
Un Palestinien a été tué par des tirs de soldats israéliens à la frontière entre l'État hébreu et la bande de Gaza. C'est ce qu'a indiqué le ministère de la Santé dans ce territoire dirigé par le mouvement islamiste Hamas. Le Palestinien de 28 ans a été tué à l'est de la ville de Khan Younes, selon cette source. L'armée israélienne a indiqué ne pas être au courant de l'incident. Au moins 33 Palestiniens ont été tués à Gaza par les forces israéliennes depuis le début le 30 mars. L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques a confirmé la thèse du gouvernement britannique sur l'identité de l'agent inervant utilisé en Angleterre pour empoisonner l'ex-espion russe Sergei Skripal et sa fille. Londres a identifié la substance comme étant un agent inervant de la famille Novichok de conception soviétique, accusant du coup Moscou d'être responsable de l'attaque. L'affaire a provoqué une grave crise diplomatique entre Moscou, qui nie toute implication, et les Occidentaux. Elle s'est traduite par la plus importante vague d'expulsion croisée de diplomates de l'histoire. Berlin va rebaptiser plusieurs rues rappelant la colonisation allemande en Afrique et honorer à la place des militants africains de l'indépendance. Le texte préconise notamment de rebaptiser les rues portant les noms de plusieurs personnalités liées à l'occupation brutale de la Namibie, où les Allemands ont tué entre 1904 et 1908 plusieurs dizaines de milliers de membres des tribus Herero et Nama, un massacre que les historiens considèrent comme le premier génocide du XXe siècle. En Afghanistan, les extrémistes ciblent délibérément les civils, c'est ce qu'a affirmé l'ONU dans un rapport publié ce jeudi. Selon le document, les attaques visant intentionnellement les civils ont fait deux fois plus de victimes au premier trimestre 2018 que durant les trois premiers mois de l'année 2017. L'ONU a appelé toutes les parties à en faire davantage pour protéger les civils. La Chine a annoncé que des exercices militaires seraient menés la semaine prochaine, non loin de Taïwan. Ces manœuvres pourraient accentuer les tensions entre Pékin et Taipei. La Chine continentale et Taïwan sont dirigées par des régimes rivaux depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949. L'île se gère de façon autonome, mais n'a jamais déclaré son indépendance. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Eric Manirakiza qui nous présente la Minute Éco.
Le FMI s'inquiète de la dette des pays aidés par la Chine. Pékin multiplie les projets d'infrastructures à l'étranger. En 2013, le président chinois Xi Jinping a lancé un plan pour déployer routes, ports, voies ferrées et parcs industriels à travers l'Asie, aux portes de l'Europe et jusqu'en Afrique. Le FMI met en garde contre les risques de dérapage financier et le piège de l'endettement pour les pays concernés. Reprise des liaisons aériennes directes entre la Russie et l'Égypte. Un vol Moscou-Locker a marqué hier cet événement. L'itinéraire avait été suspendu à la suite de l'attentat contre un charter russe au-dessus du Sinaï fin 2015. Le nombre de touristes étrangers en Égypte était passé de plus de 14 millions en 2010 à moins de 6 millions en 2016, avant de remonter à plus de 8 millions en 2017. Les revenus ont plongé jusqu'à près de 4 milliards en 2016, alors qu'ils avaient atteint plus de 11 milliards de dollars en 2010. D'après l'Organisation mondiale du commerce, la montée du protectionnisme risque de compromettre la forte croissance du commerce mondial attendue en 2018. Cette prévision de croissance est estimée à plus de 4% cette année et 4% en 2019. Et repose sur les estimations du produit intérieur brut mondial, récemment fortement révisé à la hausse. Toutefois, cette fourchette de prévision n'inclut pas la possibilité d'une escalade dramatique des restrictions commerciales. Certains signes indiquent que le protectionnisme pourrait affecter la confiance des entreprises et les décisions d'investissement.
Et en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique avec moi, Lionel Gaïma. Lionel, bonsoir.
Bonsoir Abdourahman.
Et c'est pour parler sport, les quarts de finale retour de l'Europa League sont en cours.
Bien sûr Abdourahman, l'Olympique de Marseille mène 2-1 face aux Allemands de Leipzig. Et Marseille s'était incliné 1-0 à l'aller, et 0-0 entre la Lazio de Rome et les Autrichiens de Salzbourg. Les deux favoris, eux, se sont imposés sans trop trembler en quart aller et abordent donc la Manche, retour ce soir avec confiance. 0-0 aussi pour l'heure entre les hommes d'Arsène Wenger et le CSKA de Moscou. Rappelons qu'à l'aller, l'Arsenal l'avait emporté 4-1. 0-0 aussi, toujours entre les Espagnols de l'Atlético de Madrid et les Portugais de Sporting. Le Colchoneros s'était imposé 2-0 à l'aller.
Et la Tunisie qui tient son meilleur classement FIFA.
Avec les nombreux matchs amicaux du mois de mars, des changements importants sont à noter. Côté africain, la Tunisie a accentué son statut de leader et a profité de ses victoires face à l'Iran et au Costa Rica pour gagner 9 rangs au niveau mondial. 14e, le meilleur classement de son histoire. Le reste du podium africain est inchangé avec le Sénégal et la RD Congo. Et en dehors de la Tunisie et du Sénégal, pour ce qui est des autres mondialistes africains, l'Égypte est descendue de 3 marches, tandis que le Nigeria a gagné 5 places. Et enfin, le statu quo pour le Maroc.
Et on parle NBA, Minnesota qui a pris le dernier ticket pour les playoffs.
En effet, la saison régulière de la NBA a livré son verdict et Minnesota a décroché le dernier ticket la nuit dernière. Les playoffs débutent dès ce samedi. À l'Est, les Sixers affronteront Miami Heat, tandis que le Milwaukee sera opposé aux Celtics de Boston. Ensuite, au niveau de l'Est toujours, à suivre aussi toujours les oppositions de Toronto Raptors, Washington Wizards et Cleveland et Indiana Pacers.
Voilà. Merci beaucoup Lionel. C'était la page des sports sur Le Monde, dans Le Monde aujourd'hui.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, on passe au dossier du jour. La Guinée est devenue le 20e État de l'Afrique subsaharienne ayant aboli la peine de mort pour tous les crimes et le Kenya a supprimé le recours obligatoire à ce châtiment en cas de meurtre. C'est ce qu'indique un rapport publié ce jour par Amnesty International. Seuls 20 pays sur l'ensemble du continent ont aboli la peine capitale, mais l'organisation fait noter dans ce sens des avancées positives. On écoute les explications de la chargée de campagne en Afrique de l'Ouest pour Amnesty International, Kiné Fatim Diop, au micro d'Herman Ungbo.
Il est vrai que dans la région, en général, on a encore des exécutions. Il y a deux pays cette année, le Soudan du Sud et la Somalie, qui ont exécuté 26 personnes. Mais de manière générale, il y a une baisse au niveau, disons, du nombre de pays qui exécutent des personnes condamnées à mort, puisqu'en 2016, on avait 5 pays qui pratiquaient l'exécution en Afrique. Cette année, on est à 2 pays.
La Guinée est le 20e pays à abolir la peine de mort en Afrique subsaharienne. Les signaux sont-ils favorables dans d'autres pays qui pourraient bientôt suivre l'exemple de ce pays?
La Guinée est le 20e pays et je pense que les signaux sont favorables dans d'autres pays en Afrique de l'Ouest. La Gambie est en phase de suivre les pas de la Guinée. Une volonté forte du président Barrow, mais également qui est en train de se traduire dans les textes. Également le Niger, nous avons rencontré les autorités qui nous ont parlé de cette volonté d'abolir la peine de mort en Guinée, au Niger, mais aussi au Burkina Faso avec le projet de nouvelle constitution où on a pu constater que pour l'instant, la peine de mort ne fait pas partie des crimes applicables dans le projet de constitution. Nous espérons également que d'autres pays vont suivre dans cette tendance-là.
Le Nigeria est l'un des pays où plusieurs personnes se retrouvent dans les couloirs de la peine de mort. Que faites-vous dans ce sens pour soulager ces personnes?
Alors, le travail qu'on fait au Nigeria, c'est déjà un travail de plaidoyer auprès des autorités. Mais également, on a fait beaucoup de travail de campagne dans le sens de libérer des personnes qui ont été condamnées à mort dans des procès pas du tout équitables.
Alors, globalement, quel est le tableau aujourd'hui sur les exécutions dans la zone subsaharienne quand on sait qu'au moins 15 pays ont prononcé des peines capitales, notamment en Afrique, encore récemment en 2017?
Le tableau est que, c'est vrai, il y a une nette baisse par rapport aux condamnations à mort si on compare à 2015, 2016, où on a vraiment eu des pics. Les pays classiques comme le Nigeria, le Mali sur les questions liées au terrorisme continuent à condamner à mort des personnes. Mais en même temps, il y a des pays qui sont en train de passer le pas et qui ont eu cette volonté de retirer la peine de mort dans leur législation ou dans leur pratique.
C'était Kiné Fatim Diop d'Amnesty International.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
En Côte d'Ivoire, rentrée solennelle du Sénat, la seconde chambre du Parlement, cette rentrée a eu lieu aujourd'hui. Le Sénat est une première dans l'histoire de la Côte d'Ivoire post-indépendante, mais une institution qui ne fait pas l'unanimité. À Abidjan, les précisions de Georges Ibrahim Tunkara.
Rentrée solennelle du nouveau Sénat ce jeudi à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative du pays, en présence du président Alassane Ouattara et des présidents des différentes institutions. Composée de 99 membres, dont 66 élus au suffrage indirect et les 33 autres nommés par le président de la République, le Sénat est chargé d'assurer au sein du Parlement la représentativité des collectivités territoriales et des Ivoiriens de la diaspora. Mais, au sein de l'opposition, on n'est toujours pas convaincu de l'utilité de cette institution prévu par la Constitution adoptée en octobre 2016. Mamadou Koulibaly, du parti Liberté et Démocratie pour la République, leader.
Un Sénat dont on ne voit vraiment pas quoi est-ce qu'il va servir. On renforce un Parlement en transformant le régime présidentiel qu'on a en un régime parlementaire, en donnant plus de moyens aux députés de contrôler l'action gouvernementale, en faisant du Parlement le centre du pouvoir, en obligeant le Parlement à demander des comptes à l'exécutif et en obligeant l'exécutif à rendre des comptes au Parlement.
L'opposition dénonce également la multiplicité des institutions.
Il y a la Chambre des rois et chefs traditionnels, je ne sais pas à quoi ça sert. Il y a le Sénat qui vient d'arriver, qui sera une chambre supplémentaire sans qu'on nous dise exactement comment cette chambre-là va renforcer le Parlement. Il y a le Conseil économique et social qui est supposé être un groupe de conseillers du président de la République.
Autre son des cloches, celui de Pierre Kwame Adjoumani, président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, la Lido. Pour lui, le Sénat peut être un plus pour la démocratie ivoirienne.
Ce serait un plus pourquoi ? Les lois vont être mieux examinées et nous pensons que plus examinées et si cela se fait en toute indépendance, ça va concourir bien entendu à l'avancement de la démocratie dans notre pays. Peut-être que à la pratique, nous verrons que ce n'est pas nécessaire ou à la pratique, c'est nécessaire. Donc voyons ce que ça va faire, ça va donner.
Dans la rue, les avis divergent sur l'instauration de cette nouvelle institution.
Le Sénat, moi, bon, personnellement, je me dis que les députés, peut-être qu'ils font le même boulot que le Sénat. C'est ce que je me dis, mais je ne connais pas réellement quel est le rôle du sénateur.
Dans tous les pays développés, il y a toujours un Sénat. Moi, je dis, personnellement, c'est bon. Ça permet l'évolution. Bon, le Sénat, pour moi, c'est bienvenu. On verra ce que ça va apporter.
Moi, je pense que c'est un peu trop parce qu'il y a tellement d'institutions et que ça, encore, le président du Sénat, il faut le payer à des millions. Entre nous-mêmes qui sommes là, les gens, on n'en a pas. Les salaires, il n'y a pas acheter de l'huile, ça coûte cher. Même les médicaments, c'est compliqué. Bon, on peut au moins faire des économies avec ça un peu.
Le Sénat ivoirien va siéger à Yamoussoukro, la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, et sera dirigé par l'ancien Premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio, cadre du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI. Georges Ibrahim Tounkara, Abidjan, VOA Afrique.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
La ville de Miami, dans l'état de Floride, est depuis des années l'une des destinations préférées des Européens de l'Est, avec sa température agréable, la chaleur de l'océan et les soirées festives. Mais ces derniers temps, beaucoup de Russes et d'Ukrainiennes viennent à Miami pour accoucher. Un récit de Marie Benson.
Ksenia Popova est venue à Miami depuis Vladivostok en Russie après près de 2 jours de voyage. Son mari et elle sont venus donner naissance à leur fille Taïsia. Ksenia Popova fait du tourisme d'accouchement.
J'ai toujours voulu donner naissance aux États-Unis. C'était en quelque sorte mon rêve. Dès que je suis tombée enceinte, mon mari et moi avons fait des recherches et nous sommes venus ici.
Tout bébé né aux États-Unis est automatiquement américain. Naëlia Valieva est fondatrice de Happy Baby, une organisation qui aide les parents avec les papiers administratifs, le choix du médecin et la recherche d'appartements. Naëlia Valieva.
Ce n'est absolument pas illégal de venir à Miami pour accoucher. Les gens pensent que les soins médicaux aux États-Unis sont parmi les meilleurs au monde.
Les femmes sont d'accord avec cela. Faire ce long et coûteux voyage vaut le coup pour la qualité des soins. Aussi, les attitudes sociales les aident à prendre une décision. Katerina Kramova, touriste d'accouchement.
En Russie, la grossesse est perçue comme une maladie. Vous devez tout le temps voir le docteur et passer des millions d'examens.
Remberto Santos, un obstétricien cubain de Miami, fait accoucher des femmes depuis plus de 23 ans. Et la plupart viennent de l'Europe de l'Est. Remberto Santos.
Les patientes ukrainiennes et russes supportent mieux la douleur. Certaines d'entre elles demandent la péridurale, mais la majorité veulent accoucher de manière naturelle.
Les futures mamans utilisent un visa de tourisme basique. Tout ce qu'elles ont besoin, c'est de montrer un billet retour ainsi qu'une attestation bancaire, explique Naëlia Valieva. Les femmes partent de leur pays environ un mois avant leur accouchement. Ensuite, elles ont leur bébé et restent pendant un mois. Bien que le tourisme d'accouchement coûte à ces mamans environ 20 000 dollars, beaucoup choisissent de franchir le pas pour profiter du confort de Miami. Elles rentrent ensuite dans leur pays et présentent à leur bébé sa deuxième patrie.
I would do what you like.
and I fancy my baby.
I will do what you like, mon garçon.
Yes, like a that baby.
Like this, my baby.
Give me your back, baby.
Mon garçon.
Yes, like a that baby.
Like this, my baby.
Give me your back, baby.
Dile una chance.
Me, I go dance for you, baby.
More than a worker, baby.
Me, I go dance for you.
Stay here, wait, wait, wait. In the same manner, wait, wait.
C'était Hergé Kanyera dans le titre Touma Moulango. C'est donc sur ça qu'on va se quitter. Fin de cette édition. Mise en onde Sims Loumami. Console Chang Wang. Présentation Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
And I fancy my baby.
I will do what you like, mon garçon.
Yes, like a that baby.
Like this, my baby.
Give me your back, baby.
Mon garçon.
Yes, like a that baby.
Like this, my baby.
Give me your back, baby.
Dile una chance.
Me, I go dance for you, baby.
More than a worker, baby.
Me, I go dance for you.
Chesa, c'est un ami fou. Chesa, c'est que je tout accoupe. Chesa, champagne tout accoupe.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Alors que l'écrasante majorité de près de 100 000 hommes et femmes des forces onusiennes de maintien de la paix agissent avec honneur et intégrité, des actes de mauvaise conduite surviennent, y compris de cas d'exploitation sexuelle et d'abus contre les populations que les casques bleus sont censés protéger. Les pays d'origine des casques bleus ont l'ultime responsabilité d'enquêter, de documenter et de punir des cas de mauvaise conduite. Mais les chefs des unités déployées n'ont souvent pas les connaissances ou la capacité nécessaire pour enquêter au sujet des violations de la loi criminelle militaire. Ce n'est qu'à l'issue d'une enquête crédible que des actions disciplinaires appropriées peuvent être décidées contre les auteurs de ces abus. C'est pourquoi les États-Unis et les Nations Unies ont conjointement offert le tout premier cours de formation à l'intention des officiers de police judiciaire. Ce cours est un modèle de coopération interagence et internationale. Il a été parrainé par l'Initiative mondiale des opérations de paix, gérée par le Bureau des affaires politico-militaires du Département d'État américain, élaboré conjointement et mise en œuvre par le Département de la Défense des États-Unis et le Bureau des services de contrôle interne des Nations Unies. 26 officiers originaires de 11 pays partenaires ont pris part à cette formation dans le but d'améliorer l'efficacité des enquêtes sur la conduite et la discipline au sein des opérations onusiennes de maintien de la paix. L'objectif est d'améliorer l'habilité des officiers à enquêter sur les allégations d'exploitation sexuelle et les abus en approfondissant leur compréhension des normes onusiennes de conduite et des disciplines. Il s'agit aussi de former dans les techniques de base d'enquête et de collecte de preuves. Le cours sera dispensé à 3 reprises cette année en Afrique, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique. De telles formations démontrent l'engagement des États-Unis à appuyer la politique de tolérance zéro des Nations Unies. Le cours sera dispensé à 3 reprises cette année en Afrique, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique. De telles formations démontrent l'engagement des États-Unis à appuyer la politique de tolérance zéro des Nations Unies contre l'exploitation sexuelle et les abus.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.